VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République démocratique du Congo, 3 policiers tués à Butembo dans le Nord Kivu dans une attaque contre un commissariat. Le Burkina Faso a officiellement aboli la peine de mort qui n'a pas été appliquée depuis 1978.
Pour avoir suivi le processus de très près, il faut dire que c'est un processus qui est antérieur à la demande d'extradition de François Compaoré au Burkina Faso.
Au Mali, des opposants maintiennent une marche demain pour des élections transparentes malgré l'interdiction.
Quelqu'un ne peut pas nous demander de ne pas marcher parce que nous avons un droit constitutionnel que nous sommes en train de montrer selon la loi. Les associations, les partis politiques ont le droit de marcher.
Et ici aux États-Unis, arrivé de l'émissaire de Kim Jong-un à la Maison-Blanche pour rencontrer le président américain. Dans la Minute Écho, la migration intra-africaine. 19 millions de migrants se sont déplacés sur le continent africain. Et le match Luxembourg-Sénégal en préparation du Mondial 2018 dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, 3 policiers ont été tués dans une attaque d'hommes armés contre le commissariat de la police nationale à Butembo, dans le Nord Kivu. Les assaillants ont emporté plusieurs biens matériels après le forfait, selon le commandant de la police de la ville qui attribue cette attaque à des inciviques armés. Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs de cette attaque. Au Tchad, l'ex-directeur de cabinet du président Idriss Déby Itno, démis de ses fonctions mi-mai, a été arrêté. Il serait soupçonné de divulguer certaines informations sur les réseaux sociaux relatives au fonctionnement de la présidence. Issa Ali Taher a été plusieurs fois ministre, secrétaire général adjoint de la présidence, avant d'être nommé directeur de cabinet. Au Mali, plusieurs partis politiques de l'opposition et des associations de la société civile ont décidé d'organiser une grande marche samedi pour exiger une organisation transparente de la présidentielle et l'équité dans le traitement de l'information sur la télévision d'État. Malgré l'interdiction de cette marche, ses initiateurs ont maintenu la marche. Kassim Traoré.
Dans la capitale malienne, les regards sont tournés vers cette grande marche de l'opposition et une coalition de la société civile. Noum Togo, secrétaire à la communication du chef de file de l'opposition.
Quelqu'un ne peut pas nous demander de ne pas marcher parce que nous avons un droit constitutionnel que nous sommes en train de montrer selon la loi. Les associations, les partis politiques ont le droit de marcher. Surtout, nous sommes en train de marcher sur la légalité et nous sommes en train de demander des droits pour le peuple malien. Premièrement, une organisation d'élections libres et démocratiques et la libération de l'ORTM.
Le gouverneur du district de Bamako, qui a fait un communiqué pour interdire cette marche, évoque la situation d'état d'urgence.
Et tout récemment, vous avez remarqué que les déplacements du président de la République, que ce soit à Koutiala, que ce soit à Sigasso, que ce soit dans le Mandé profond, donc il y avait l'état d'urgence, mais il y a eu des activités. Nous avons vu aussi tout récemment la sortie grandiose du chef de file de l'opposition pour le meeting au 26 mars. Nous avons vu aussi des maoulous se tenir ici, il y a des états d'urgence. Donc ça, ce sont des arguments qui sont légers pour nous dire de ne pas marcher. Parce que pour nous, c'est des droits constitutionnels et nous marchons de façon légale.
Déjà, les initiateurs multiplient la sensibilisation pour dire à tout le monde qu'il s'agit d'une marche pacifique. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, le ministère de la Justice a mis en place le comité de pilotage chargé de préparer le procès du massacre de septembre 2009 qui avait fait plus de 150 morts. Sa mission sera de veiller à l'organisation du procès et devra, parmi d'autres, mettre sur pied un mécanisme d'indemnisation des victimes. Pour rappel, en 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle du chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara. En Guinée équatoriale, le leader du principal parti d'opposition affirme qu'un de ses proches a été assassiné à la prison centrale de Malabo. D'après Gabriel Obiang, dont le parti citoyen pour l'innovation a été dissous en février dernier, la tête de son cousin Evaristo Sima présentait des coups. Ancien capitaine de l'armée, Evaristo Sima avait été condamné à 4 ans de prison pour désertion. L'Union européenne s'est dit inquiète de la forte détérioration de la situation des droits de l'homme en Guinée équatoriale. L'ONU a publié un communiqué faisant état de la mort d'une douzaine de migrants en Libye ils étaient maintenus en captivité et torturés. Le 23 mai, ils ont été tués par balle par leurs ravisseurs alors qu'ils tentaient de s'évader. Le point avec Marie Benson.
L'ONU a déclaré que 12 migrants ont été tués par des trafiquants d'êtres humains le 23 mai à Bani Walid, à 170 km de Tripoli. Selon les Nations Unies, ils ont essayé de s'évader d'un camp où ils étaient détenus et torturés, certains pendant des années. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, environ 200 Érythréens, Éthiopiens et Somaliens étaient maintenus en captivité. Bani Walid est un lieu de transit pour les migrants clandestins qui veulent aller en Europe. Cette ville compte une vingtaine de centres illégaux de détention de migrants. En 2017, une vidéo montrant un marché aux esclaves en Libye avait soulevé une indignation mondiale.
Et toujours en Libye, au moins 17 civils ont été tués ces deux dernières semaines dans l'offensive militaire lancée début mai par Khalifa Haftar contre Derna, ville contrôlée par des islamistes, selon l'ONU. Des ONG de défense des droits de l'homme ont exprimé leurs inquiétudes quant aux risques encourus par la population de cette ville. 12 militants islamistes somaliens Shebab ont été tués jeudi lors d'une frappe aérienne menée par l'armée américaine. C'est ce qu'a annoncé le commandant américain pour l'Afrique. Cette frappe a été menée à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Mogadiscio. C'est ce qu'a indiqué l'Africom sans fournir de détails sur l'opération.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et à l'international, le général Kim Jong-chol, porteur d'une lettre du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, adressée personnellement à Donald Trump, rencontre actuellement le président américain. Le général a déjà rencontré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à New York mercredi et jeudi en vue d'un éventuel sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Nathalie Barge.
Le général Kim Jong-chol, négociateur en chef du régime nord-coréen, doit remettre la lettre scellée de Kim Jong-un au président américain. Il vient d'arriver à la Maison-Blanche. Cette missive fait suite à la lettre ouverte de Donald Trump aux dirigeants nord-coréens, dans laquelle il annulait leur tête-à-tête prévu le 12 juin à Singapour en dénonçant l'hostilité de Pyongyang. La rencontre entre l'émissaire nord-coréen et le président américain intervient au lendemain de ces discussions à New York. Le général nord-coréen a rencontré mercredi et jeudi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo en vue d'un éventuel sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Washington réclame une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord qui veut obtenir des garanties pour sa sécurité.
Et les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium ont provoqué de vives réactions dans le monde entier. L'Union européenne, le Canada et le Mexique promettent de riposter. Bruxelles a déjà saisi l'OMC pour une plainte contre Washington. Eric Manirakiza.
Le Canada a d'ores et déjà annoncé des taxes sur des produits américains d'une valeur de près de 13 milliards de dollars américains. Le ministre canadien des Finances a qualifié la décision de Washington d'absurde. Paris a déclaré qu'il n'y aura pas de négociation sous la pression de ces taxes punitives des États-Unis. Berlin a demandé à l'Union européenne de réagir de manière ferme pour protéger les milliers d'emplois en Europe. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a souligné que l'Union européenne défendra ses intérêts pour contrer l'offensive commerciale américaine. Bruxelles a porté le cas devant l'OMC et va imposer des droits de douane supplémentaires sur certains produits importés des États-Unis. Le secrétaire général de l'OCDE a appelé à sauver le multilatéralisme, estimant que le moment est critique pour son avenir et la planète. De son côté, le président français Emmanuel Macron veut la refondation de l'OMC comme meilleur moyen de défendre le libre-échange. La décision américaine est intervenue au premier jour du G7 Finance qui se déroule dans la station de ski Whistler dans l'ouest du Canada.
En Espagne, le socialiste Pedro Sanchez est devenu chef du gouvernement en poussant vers la sortie le conservateur Mariano Rajoy, coulé par un scandale de corruption. Le décret entérinant sa nomination a été signé aujourd'hui par le roi Philippe VI, devant lequel il doit prêter serment ce samedi. En Syrie, le mois de mai a été le moins meurtrier pour les civils depuis 2011. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 244 civils ont été tués en mai dans ce pays ravagé par une guerre qui dure depuis plus de 7 ans. En avril, l'OSDH avait donné le chiffre de 395 civils tués pour avril. Et le chanteur congolais Koffi Olomide sera jugé en France. L'artiste de 161 ans est accusé d'avoir, à plusieurs reprises, agressé sexuellement et séquestré quatre de ses danseuses en région parisienne entre 2012 et 2006. Et voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'impact économique et social des flux migratoires sur l'Afrique a révélé la prédominance des flux migratoires intra-africains. Les cinq principales destinations africaines sont notamment l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Kenya et la Libye. Par exemple, les émigrés ont contribué au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire à hauteur de 19% en 2008, du Rwanda pour 13% en 2012, de l'Afrique du Sud pour 9% en 2011. En 2017, 17 millions de migrants ont quitté l'Afrique et 19 millions se sont déplacés sur le continent qui a aussi accueilli 5,5 millions de personnes venues d'ailleurs. Le principal motif du départ est l'espoir de trouver un travail mieux rémunéré. L'OMS enjoint aux États de développer une véritable politique de lutte contre le tabac pour réduire ses effets néfastes sur les consommateurs et les économies nationales. Plus de 80% des fumeurs de tabac vivent dans des pays en développement. Le monde compte plus d'un milliard de fumeurs adultes et au moins 367 millions de consommateurs de tabac sans fumer. Les statistiques montrent que plus de 7 millions de décès annuels sont imputables au tabac. Actuellement, plus de la moitié de l'ensemble des États membres de l'OMS ont réduit la demande en tabac et près d'un sur 8 devrait atteindre la cible de réduction de 30% d'ici à 2025. Aux États-Unis, le taux de chômage recule à moins de 4% avec de solides embauches en mai.
Et c'est la musique qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Le match Luxembourg-Sénégal en préparation du Mondial 2018 a laissé des traces.
Cette rencontre amicale 0-0 a fait 3 blessés chez les Lions de la Teranga. Il s'agit de Saliou Cisse, Ismaël Assar et Mambiram Diouf. Les médias sénégalais précisent que le joueur de Stoke City, Mambiram Diouf, doit subir des tests pour voir s'il n'a pas une commotion cérébrale. L'attaquant des Lions de la Teranga s'est cogné la tête avec Carlson Drake, milieu de terrain luxembourgeois. Il a tenu sa place jusqu'à la fin du match, mais une fois dans les vestiaires, il s'est manifestement senti mal et a été évacué à l'hôpital. Ismaël Assar, lui, s'est blessé à la cheville à la 70e minute de jeu. Même blessure pour Saliou Cisse qui a reçu une bonne semelle.
Et le 13e trophée de la Champions League a rejoint la vitrine du Real.
Le trophée de la Ligue des Champions 2017-2018, 13e de l'histoire du Real Madrid, a pris place dans la vitrine du stade Santiago Bernabéu qui, selon la presse espagnole, a dû être agrandi après ce 4e titre remporté en 5 ans. Les 13 trophées alignés sont visibles dans l'une des salles du musée du club. Après la finale, il a néanmoins fallu une semaine avant que cette nouvelle coupe aux grandes oreilles ne trouve sa place.
Cyclisme, le vélo de Froome a été contrôlé 6 fois sur le Tour d'Italie.
Et oui, le vélo du Britannique Chris Froome, vainqueur du Tour d'Italie, a été contrôlé 6 fois durant l'épreuve par l'Union cycliste internationale qui a fait de la lutte contre la fraude technologique une de ses priorités. La monture de Froome a notamment été contrôlée à l'issue de la 19e étape remportée par le Britannique après une attaque à 80 km de l'arrivée sur une route en terre, le col le plus dur de cette 101e édition. Au total, les commissaires de l'UCI ont contrôlé les vélos de 58 coureurs.
Et enfin, tennis, Djokovic a survécu au combat contre Bautista au 3e tour de Roland-Garros.
L'ex numéro 1 mondial Novak Djokovic a tenu pendant près de 4 heures face à l'Espagnol en 4-7. Le Serbe a failli se retrouver en très mauvaise posture quand l'Espagnol l'a servi pour le 3e set à 5-3. Il a alors inversé durablement la tendance pour remporter cette manche au tie-break, puis la suivante plus aisément sous une pluie fine. En 8e de finale, Djoko affrontera un autre Espagnol, Fernando Verdasco, 35e mondial, tombeur du numéro 5, le Bulgare Grigor Dimitrov.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Plus de peine de mort au Burkina Faso. Le Parlement a adopté hier, 83 pour et 42 contre, un nouveau code pénal abolissant la peine capitale. Les critiques disent que c'est une loi taillée sur mesure pour faciliter l'extradition de François Compaoré, le frère de Blaise Compaoré, actuellement entre les mains de la justice française. Mais pour une analyse, Balagasy Koura a joint Ali Sanou, le secrétaire général du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits humains et des peuples.
Depuis la dernière lecture du code pénal dans notre pays, qui date de 1996, les organisations de défense des droits humains, dont justement le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ont entrepris une série d'actions en vue de convaincre les autorités d'abolir la peine de mort dans notre législation, parce que nous estimons toujours qu'il s'agissait là d'une peine qui constituait une violation du droit intangible à la vie. Parce que pour nous, organisation des droits humains, aucune raison ne peut justifier qu'un État puisse ôter la vie à un individu. Dans la mesure où, comme je l'ai dit, le droit à la vie est un droit intangible.
À votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu changer ça plus tôt?
Il faut dire que c'était un processus qui a été long, mais qui date de plusieurs années. Le Burkina Faso a, par exemple, souscrit aux différents moratoires des Nations Unies sur la non-exécution de la peine de mort, et qui marquait quand même la volonté des autorités d'aller vers l'abolition de la peine de mort. Par la suite, déjà en octobre 2014, un conseil des ministres avait adopté un projet de loi visant à abolir la peine de mort, mais par la suite, après l'insurrection populaire, naturellement le renversement du gouvernement de Blaise Compaoré, ce projet de loi n'a pas pu être conduit à son terme.
Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que c'est une loi taillée sur mesure, notamment pour faciliter l'extradition de François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui en France?
Déjà, nous avons deux observations là-dessus. La première, c'est que pour avoir suivi le processus de très près, il faut dire que c'est un processus qui est antérieur à la demande d'extradition de François Compaoré au Burkina Faso. Et je ne pense pas qu'il y ait un lien direct entre l'abolition de la peine de mort aujourd'hui et la procédure judiciaire en cours pour l'extradition de François Compaoré. Mais deuxièmement, à supposer qu'il y ait un lien direct, je pense que pour nous, en tant que défenseurs des droits humains et combattants contre l'impunité, si l'abolition de la peine de mort peut faciliter le fait que François Compaoré vienne répondre au Burkina Faso des actes qui lui sont reprochés devant la justice au Burkina Faso, nous applaudirons dès demain. Donc je dis que c'est une abolition qui arrive au bon moment, surtout si elle peut permettre de faire sauter un argument qui militait en faveur de la non-comparution de François Compaoré devant les juridictions de son pays.
C'était Ali Sanou, le secrétaire général du BPDHP, adjoint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Et focus sur la grève de la fonction publique qui se poursuit actuellement au Tchad. Les travailleurs ont catégoriquement dit non à une proposition du gouvernement de les payer en nature pour remplacer les coupes salariales. Les avocats, huissiers et notaires du pays se sont joints hier à cette grande sociale pour soutenir un avocat pris à partie par des forces de l'ordre. De N'Djamena, le reportage de notre correspondant André Komadjingar.
Cinquième jour de la grève sèche et illimitée lancée par la plateforme syndicale revendicative pour réclamer le paiement intégral de salaire des agents de l'État à partir de ce mois de mai et le remboursement de leur salaire coupé depuis janvier 2018. Grève qui paralyse l'administration tchadienne, surtout les établissements d'enseignement public. Ces établissements sont fermés à quelques jours des examens de fin d'année. Certaines écoles privées à l'intérieur du pays ferment également leurs portes de peur d'être perturbées par les élèves du public. Quelques élèves interrogés dans la rue de N'Djamena expriment leur inquiétude.
Nous sommes à quelques pas de l'examen, on ne vient pas à l'école, c'est arrêté comme ça, c'est un peu inquiétant quoi. Si la grève persiste, on ne sait pas, peut-être ils vont adopter la méthode de 2007. C'est les militaires qui ont surveillé en 2007, donc ça serait peut-être la même chose. On ne trouve pas normal, mais ici on n'a pas le choix. On n'a pas fini les programmes. Et maintenant que nous sommes en grève, on ne sait pas quoi faire pour aller composer le bac. Donc c'est un peu malheureux pour nous.
On était d'abord à la maison plus de 2 mois et nous on s'inquiète, est-ce qu'on va arriver à composer ou pas? On demande simplement à notre gouvernement de penser à nous, à notre avenir qui est en jeu.
Entre-temps, le gouvernement tourne en rond. Il propose de payer en nature les salaires coupés en attendant une embellie financière. Les travailleurs n'adhèrent pas à cette proposition. Guébana Samuel est le président du comité de suivi de la grève de la plateforme syndicale.
Ce sont des pures et simples diversions pour nous endormir. Notre phrase cruciale, gouvernement, verse-nous notre salaire intégral.
Le personnel judiciaire vient d'entrer dans la danse. Les magistrats et avocats du Tchad déclenchent eux aussi une grève dans toutes les juridictions du pays. Ils protestent ainsi contre la tentative d'assassinat dont Maître Doumra Manassé a fait l'objet le 22 mai dernier à Toba, chef-lieu de la région de Logone orientale au sud du Tchad, à sa sortie du tribunal où il avait obtenu la libération de ses 3 clients. Ils conditionnent la reprise des activités au parquet par le départ du gouverneur et du commandant de la Légion de la Gendarmerie. Le secrétaire général de l'Ordre des avocats du Tchad, Maître Kamtok Emmanuel, est dur.
Les professions judiciaires libérales rappellent que les décisions de justice peuvent être attaquées par les voies de recours. Le pouvoir judiciaire, troisième pouvoir, ne se mêle pas de ce que fait l'exécutif, ni le législatif, encore moins de ce que font les hommes en tenue. Et nous sommes prêts à mourir en robe.
André Godmadingar Ndiamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Et au Cameroun, une start-up veut créer des opportunités pour les jeunes du pays dans le monde de la mode. Dans un univers jadis fermé, la création de Vorst en 2014 constitue pour des aspirants mannequins l'aubaine de leur vie. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, a assisté à une séance de casting gratuit de jeunes mannequins camerounais. Voici son reportage.
En plein air, autour du monument Charles Atangana à Yaoundé, une vingtaine de jeunes filles et garçons participent à un casting de sélection des mannequins organisé par la start-up camerounaise Forst. Joël et Lucie sont parmi les candidates du jour et espèrent pouvoir réaliser leur rêve, devenir mannequin.
Je ne peux pas mourir sans monter sur un podium, sans défiler devant des grandes personnalités. Pourquoi pas créer ma part quand je serai déjà connue? Quand je serai déjà mannequin.
Le style, les vêtements et tout, la démarche, c'est un truc vraiment qui me plaît. Vous savez, les femmes jouent un très grand rôle et je pense que avec mon feeling, je pourrais.
Au menu du casting, quelques passages devant le jury et des questions de culture générale adressées aux candidats. Un exercice auquel le jeune Stéphane et Joël se sont déjà livrés plus d'une fois, avec au bout des fortunes diverses.
Fais d'abord confiance pour mon potentiel d'abord. C'est la raison pour laquelle on parvient à arriver dans les. Dans des lieux comme ça.
Embrasser carré dans la mode et mannequinat, ce n'est pas facile. On vous renvoie dans une semaine, les résultats vont sortir, mais bon, à la fin, on se rend compte que les résultats ne sortent pas. Ils truquent entre eux là-bas et quand vous envoyez les messages, ils ne vous répondent plus.
Au Cameroun, la carrière de mannequin ne s'ouvre pas au premier venu. Tout comme avoir une ligne de vêtements connue n'est pas à la portée de tous. Deux gros défis que la start-up Force commence à relever. Ingrid Kana, promotrice de la start-up mode Force.
Une agence vit par ses modèles et vit sur les contrats que certains clients, notamment les événements, les événementiels, les showrooms, des défilés, des stylistes qui ont besoin de faire vivre leur marque. Comme vous avez vu tout à l'heure, ce jeune Camerounais qui veut développer sa marque, Chomemo, Vance vivra avec ses modèles.
Fort heureusement, des fleurons de la mode émergent et offrent des carrières de mannequins à d'autres jeunes. Stéphane Djounang est l'un d'eux. Il est créateur de la ligne de vêtements Chomemo. qui habille une dizaine de chanteurs camerounais.
Si j'ai 23 collections déjà sur le marché, j'ai une ligne de vêtements. Et quand on parle de ligne de vêtements, c'est-à-dire qu'on trouve tout. Chemise, costume, pantalon, jaquette, t-shirt, par-dessus, donc tout.
Chaque fin d'année, le Cameroun abrite un grand rendez-vous de la mode dénommé Annual Show. Un événement qui exclut certains jeunes modélistes et mannequins en quête de notoriété. On comprend dès lors pourquoi la start-up Force suscite de nombreux espoirs. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et on poursuit en République démocratique du Congo, à Bukavu. Des jeunes soucieux d'assainir leur milieu pollué par des déchets organiques qu'on jette un peu partout dans la ville recyclent ces déchets pour les transformer en briquettes écologiques combustibles pour la cuisson. La majorité des habitants du sud Kivu utilisent le bois de chauffe, ce qui contribue à une déforestation à grande échelle. Notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouhero, nous propose ce reportage.
L'entreprise dénommée Briquette du Kivu n'a pas encore plus de 4 mois, mais elle fait déjà rêver plus d'un écologiste. Ces jeunes, au nombre de 7, ramassent une fois la semaine près de 200 kilos de déchets ménagers biodégradables pour les rendre utilisables. Pour Mourou Lazigabe, initiateur et manager du Briquette du Kivu, il s'agit d'une contribution des jeunes pour réduire la pression de l'homme sur la forêt et réduire l'insalubrité à Bukavu.
Avec les taux de démographie très élevés, actuellement, nous produisons beaucoup de déchets que l'État ne sait plus gérer. Nous nous sommes dit, on est jeunes et notre façon de voir les choses est basée sur l'avenir. Et le changement climatique menace déjà cet avenir, alors il faut qu'on fasse quelque chose.
Cette transformation de la matière organique en briquette écologique demande de la patience, un esprit d'équipe. Il faut sécher la matière première, la carboniser, presser et obtenir des briquettes qu'il faut à nouveau exposer au soleil pendant 5 à 7 jours avant leur utilisation. D'ailleurs, une dizaine de briquettes suffisent pour faire cuire du riz aux légumes pour 5 personnes, nous témoigne Gisèle Foura, une ménagère vivant au quartier Ponzi, qui utilise ces briquettes.
Ça chauffe beaucoup plus par rapport aux briquettes que nous utilisons souvent et aussi ça résiste. Et aussi ça permet à la personne qui est en train de préparer de ne pas beaucoup se salir. Vous voyez avec la briquette que nous utilisons ici chez nous, il faut s'utiliser, donc augmenter la quantité au bras zéro. Tu vois, il faut d'abord se couvrir, donc couvrir la main avec du sachet pour ne pas se salir. Donc c'est une chose surprenante pour moi. Je ne savais pas qu'avec les déchets, on peut fabriquer les briquettes.
Étudiants pour la plupart, ces jeunes ne se consacrent à ce travail que 3 jours la semaine pour produire près de 1000 briquettes de 6 cm de longueur, ajoute le manager du groupe qui a une vision à long terme.
On aimerait aller loin, que nous passions de la phase artisanale vers la phase industrielle ou industrialisée, que ça se répand partout à travers la République. Parce qu'on peut freiner la déforestation à Bukavu, et ça continue au nord Kivu, ça continue au Maniema, ça continue à Kinshasa et nous voulons être présents partout là et faire la même chose.
Voilà une initiative à la fois ambitieuse et révolutionnaire. Au sud Kivu, la vitesse des déforestations est estimée à 15 hectares le mois selon la société civile environnementale locale. Ernest Mouro pour VOA Afrique, Bukavu.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à Sims Loumami, à la mise en onde, à Thomas Blondet, à la console, Raïssa Jourdain à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actu. Excellente suite de programme. écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.